Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Johan Bredov.
Merci d'être avec nous sur RMC. L'After Live se poursuit jusqu'à 23h pour vivre sur RMC la Super Coupe d'Europe. Le PSG face à Aston Villa. Maxime Chanot est bien là à mes côtés. On a loupé toujours l'éclipse toujours. Totale quand même, Maxime. Et là, c'est un coup dur pour nous.
C'est vrai. Mais ouais. Écoute, on va pas louper en tout cas ce superbe match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.
Ça, bien sûr. Voilà. Tiens, on va rejoindre. On va demander s'ils ont vu l'éclipse à Valentin Jama et Arthur Perrault.
Quand même.
Ouais, t'as fait ta petite photo, Arthur, bien sûr.
Bah, en fait, on avait l'éclipse sur l'écran, donc c'était pas vécu comme tout le monde.
D'accord.
Mais comme on n'avait pas les lunettes, c'est pas trop dérangeant, sinon ce serait griller la rétine et pas très pratique pour commenter un match. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas si mal.
Ouais, c'est pas mal. Donc ce PSG Aston Villa dans 31 minutes exactement. Un petit rappel justement des compositions, commençant par celle du PSG évidemment.
Oui, avec l'artillerie lourde hein, alignée ce soir par l'entraîneur espagnol Luis Enrique. Safonov dans la cage, la défense type avec Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, la charnière composée de Marquinhos et de Willian Pacho au milieu de terrain, Fabian Ruiz qui rentrait tardivement de la Coupe du Monde puisqu'il a remporté cette Coupe du Monde avec l'Espagne. Il sera remplacé par Warren Zaïre-Emery, titulaire aux côtés de Vitinha et de Joao Neves, et devant Vishak Varatsrelia à gauche, Désiré Doué en pointe, et donc la première titularisation sous ces nouvelles couleurs parisiennes pour Marnès Akliouche qui sera présent à droite sur le couloir droit de cette attaque parisienne.
Pour Aston Villa, c'est Marco Bizot qui va garder la cage, l'ancien Brestois, puisque Dibu Martinez, l'Argentin, n'est pas revenu de vacances. Lindelof et Pau Torres en charnière centrale à droite de la défense, le Polonais Matikash à gauche, Yann Madsen milieu terrain avec Camara l'international français, João Gomes le Brésilien un petit peu plus haut, Buendia l'Argentin à droite. On aura dans le couloir John McGinn, le milieu écossais à gauche, George Hemmings, un jeune joueur formé au club de 19 ans, et puis en pointe donc Brian Maggio, 17 ans, son premier match avec Aston Villa. On rappelle notamment que Konsa en défense centrale est absent, tout comme Watkins devant, Manzambi blessé, Onana blessé, et une équipe diminuée côté Aston Villa aussi.
Premier match officiel pour le Paris Saint-Germain, déjà un titre en jeu. Le deuxième match officiel, ce sera la même chose, ce sera le trophée des champions dimanche. On peut se poser la question pour cette rentrée du PSG, si les Parisiens sont prêts pour cette semaine déjà ultra importante. Donc c'est le retour des joueurs hein, qui ont participé à la Coupe du Monde, mais ils ne sont pas forcément tous prêts à jouer des matchs de haute intensité tout de suite.
Oui.
Arthur, pour la plupart, ça fait très peu de temps qu'ils sont revenus à l'entraînement, Arthur.
Oui, et on peut citer notamment, et c'est important hein, les internationaux français qui eux ont repris il y a deux jours, donc lundi du côté du campus PSG à Poissy, c'est le cas d'Ousmane Dembélé, c'est le cas de Bradley Barcola, on peut citer encore Lucas Hernandez qui a pris le temps de se marier entre temps et qui a repris aussi tardivement, mais voilà, ça n'a pas empêché certains, notamment Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, de faire leur retour un peu plus tôt dans la capitale, de prendre le temps de travailler physiquement du côté de l'INSEP, un petit peu dans leur coin à l'abri des regards, pour vraiment être au point physiquement. Et d'ailleurs, de ce que l'on sait, des échos que l'on a pu avoir ces dernières heures, notamment Ousmane Dembélé a bien dit au staff qu'il se sentait déjà prêt. Ça, c'est un premier indicateur important, mais factuellement, et c'était déjà le cas l'été dernier avant la Supercoupe à Udine, la préparation est très 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 courte. Il ne va pas falloir s'attendre à des miracles. D'ailleurs, Luis Enrique l'a dit, la gestion des organismes va être très importante parce que la plupart ont repris, voilà, il y a de ça quelques jours. Donc c'est très compliqué, il va falloir être patient. Mais Paris a déjà un premier objectif ce soir et un premier trophée qui est quand même important pour ce club.
Tu l'évoquais, Arthur, on va écouter le coach du PSG, Luis Enrique, qui parle de cette préparation une nouvelle fois tronquée, comme celle de l'année dernière. On l'écoute.
Je me rappelle l'année dernière, ça a été très particulier. C'est debout et cette année, c'est la même chose. En termes de préparation, c'est très compliqué à gérer la charge de minutes, savoir exactement quelles sont les charges de minutes que chaque joueur de manière individuelle peut jouer. Et on va voir demain. On chercherait à être au maximum niveau, mais c'est compliqué. Il faut savoir qu'on prépare la saison de manière intelligente, en cherchant à être dans les meilleures conditions à la fin de la saison, non à le début de la saison. C'est comme ça, il faut l'accepter et on est content d'être là.
L'année dernière, ça avait été compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain. On se rappelle de ce premier match contre Tottenham. Le PSG l'avait emporté, mais ça avait été très galère pour les Parisiens. Maxime, le PSG commence à être habitué de cette préparation tronquée. Mais Luis Enrique le disait, c'est toujours très compliqué à gérer, très particulier de commencer avec un premier match officiel et un titre déjà en jeu.
Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce qu'on doit blâmer en tout cas ceux qui organise ce genre de compétition, en tout cas ce genre de match à cette période? Est-ce qu'on n'aurait pas tout à gagner en effet de voir ce genre de match un peu plus tard dans la saison? Bon voilà, en tout cas la situation est telle quelle. C'est très compliqué comme pour un club comme le Paris Saint-Germain quand tu as autant d'internationaux. En effet, c'est difficile de gérer un petit peu les préparations. Mais encore une fois, on est sur un match qui est tellement important. Il faut pas banaliser ce match. Hein. C'est une finale. Oui. Il y a un trophée au bout de ces 90 minutes, voire plus en fonction du résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu es un joueur de foot, quand tu es un professionnel, il faut pas oublier que le Paris Saint-Germain a aussi souffert toutes ces années. Aujourd'hui, ils sont dans un cycle qui est exceptionnel. Où est-ce qu'ils roulent sur l'Europe, ils gagnent absolument tout. Mais voilà, ça reste un trophée. Je pense qu'il ne faut pas te banaliser. Je me mets à la place de tous ces joueurs. Même si c'est vrai que physiquement, ils risquent d'être un peu justes, j'imagine les voir jouer à 100%. Parce que je le répète encore une fois, tu as un trophée au bout de ces 90 minutes. Et c'est quand même pas rien.
Vous pouvez là, juste pour bien sûr, complet, vas-y, Valentin. L'an dernier, il y avait une semaine de prépa, mais tout le monde avait repris en même temps. Et là, ce qu'il expliquait, ce qui est dur, c'est qu'il dit mais moi, quand les joueurs ils s'entraînent chez eux, je ne sais pas vraiment en fait dans quel état de forme ils reviennent. Et donc, comme Arthur le disait, ceux qui sont revenus lundi, on imaginait à peine les voir titulaires. Et t'en as quand même trois avec Hakimi, Doué et Zaïre Emery.
C'est vrai que pour être honnête avec vous, messieurs, je pensais pas forcément voir par exemple Hakimi titulaire. Hakimi, qu'il faut pas oublier, hein, qui a eu une saison, enfin, ça fait presque même deux saisons qu'il joue quasiment tous les matchs. Il a joué aussi la Coupe d'Afrique des Nations, il a joué les JO, il a joué cette Coupe du Monde. C'est vrai que ça peut être surprenant. On peut aussi penser à Marquinhos, qui est le plus ancien de l'effectif, parce qu'il faut pas oublier que dimanche, tu as une autre finale. Donc, comment Luis Enrique devait gérer ce match-là?
Ou alors ça se résume juste au fait, Maxime, qu'il veut absolument gagner ce match-là. Hein.
Mais je pense que
c'est peut-être aussi simple que ça.
Je suis d'accord avec toi aujourd'hui. Lorsque tu vois le 11 titulaire, c'est très simple. Luis Enrique a envie de gagner ce match-là. Voilà. Il a envie encore de montrer à tout le monde que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe. Et ça passe évidemment en battant Aston Villa ce soir.
Il y a un message à envoyer à l'Europe, évidemment, pour le Paris Saint-Germain. Vous pouvez nous appeler au 32-16, venir réagir à ce premier match d'une semaine très importante. Cette Super Coupe d'Europe à vivre dans 25 minutes maintenant entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Justement, c'est Jean-Jacques qui nous a appelé au 32-16, supporter parisien. Salut Jean-Jacques.
Salut Jean-Jacques.
Comment tu le sens? Comment tu vois cette rencontre? Est-ce que tu attends énormément de choses de la part du Paris Saint-Germain ce soir face à Aston Villa, Jean-Jacques?
Alors, j'attends pas énormément de choses parce que la préparation, elle est un petit peu là, il était un petit peu compliqué, comme vous l'avez expliqué, avec les arrivées un petit peu en décalé de chaque joueur. Donc, au niveau du jeu, j'attends pas grand-chose. La seule chose que j'attends, effectivement, c'est la victoire parce que le palmarès se compte et que là on est dans une bonne période et faut en engranger un match.
Exactement.
On sait pas quand est-ce que ça va réarriver. Ça se trouve notre prime et on est peut-être qu'on est sur le déclin, on sait pas encore. Donc là tant que tu peux prendre des choses, il faut les prendre. Je sais pas quand est-ce que ça va se représenter pour toi. Donc voilà, moi tout ce que j'attends ce soir c'est la victoire, pas forcément le Lucho Ball. J'attends juste voilà qu'on gagne en espérant pas de blessés. C'est une semaine compliquée, c'est une semaine de reprise. Voilà, et je pense qu'il faut attendre que ça d'ailleurs ce soir, il faut attendre que la victoire si possible avec des joueurs qu'on puisse faire tourner et engranger dès maintenant un petit peu de rotation avec les arrivées, les différents états de forme, et puis essayer de prendre les deux titres sur la semaine, et puis voilà, puis on aura tout le temps pour développer notre jeu pour autre chose et pour aller chercher le beau jeu. Là il faut vraiment se contenter du minimum, et le minimum c'est la win, et voilà, et pour l'instant ça nous sourit bien. Donc il faut que ça continue. Le message à l'Europe, je pense pas que ça soit ce soir, parce qu'encore une fois, il y a eu trop de décalage au niveau des arrivées des joueurs. On n'est pas encore dans notre pic de forme, bien au contraire. Donc là, juste se satisfaire d'une bonne victoire, pas de blessés. Et
surtout pas de blessé. C'est vrai que ça peut être un peu le risque hein, quand certains joueurs reprennent trop vite. Il y a aussi un petit peu justement l'engouement de pouvoir jouer ce match très rapidement alors que tu n'es pas prêt physiquement. Après, n'oubliez pas qu'il y a aussi des joueurs sur le banc. Donc tous les joueurs qui seront cramés après 50-60 minutes, j'imagine que Luis Enrique fera un turnover, va faire des changements. Et pour revenir un petit peu aux compositions, parce qu'on a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain, mais on n'est plus non plus sur du Aston Villa Prime. On a parlé des blessés. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu quand même deux joueurs très très importants, notamment Morgan Rogers, qui était la locomotive d'Aston Villa l'année dernière. Yuri Tillmans aussi, le Belge, qui est parti. Donc c'est quand même deux éléments importants. Lucas Digne. pour ne citer que, plus les blessés, plus les absents, plus ceux qui reviennent de Coupe du Monde. Donc voilà, évidemment qu'il faut se concentrer sur le Paris Saint-Germain. Je pense que intrinsèquement cette équipe est bien plus forte qu'Aston Villa, mais attention quand même, parce que voilà, on n'est pas forcément sur un grand Aston Villa. Maintenant, il y a aussi une dernière chose à prendre en considération: le coach d'Aston Villa n'est autre que Emery, qui est quand même l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc j'imagine qu'il a aussi un peu ce sentiment de revanche entre guillemets, et qu'il a envie d'aller gagner ce match contre son ancien employeur.
Ouais, Lucas Digne qui sera sur le banc du PSG. Oui, Arthur.
Dernier truc pour terminer, pour boucler la boucle. Oui, il y a une très grosse équipe alignée ce soir, mais typiquement là, à l'échauffement il y a quelques instants, Mardès Akliouche était dans l'axe. Ça aussi, ça peut être un élément important à guetter ce soir. C'est sa première sous les couleurs parisiennes. Est-ce qu'il va évoluer sur le long terme dans cette position-là? Comment il va se comporter? On l'a pas beaucoup vu pendant la Coupe du Monde, voire pas du tout. Voilà, c'est aussi une vraie interrogation. Est-ce que le mercato parisien paye déjà, porte déjà ses fruits et peut vraiment venir consolider, renforcer encore un peu plus la domination européenne de cette équipe?
Bah tiens, justement, Jean-Jacques, on peut te poser la question. Toi, supporter parisien, tu nous as appelé au 32-16. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée et de cette titularisation pour cette Super Coupe d'Europe d'Akliouche?
Alors, pour moi, en ce qui concerne l'arrivée, moi, je dis excellent. Un joueur français, dans une équipe française, que dire de plus? En plus, mon équipe Paris. À ce sujet, j'aimerais bien que Barcola reste aussi, mais bon, ça, c'est autre chose. Après, non, moi je suis super heureux, c'est bien que ça soit titularisé, et puis après je pense que c'est sûrement celui qui est le moins fatigué, même s'il a fait la Coupe du Monde, entre guillemets, parce qu'il a eu le moins de temps de jeu, et donc du coup c'est celui qui est le moins cramé par rapport à tous les autres joueurs. Après, en ce qui concerne sa position de ce soir, qui joue dans l'axe ou sur le côté, on connaît Luis Enrique, sa position de ce soir ne sera pas forcément sa position définitive pour le reste de la saison. Donc il peut commencer ce soir dans l'axe ou aller sur un côté, et puis ça va évoluer tout au long de la saison. C'est ce que Enrique veut comme type de joueur, et donc je pense que ce soir on aura quelques enseignements, mais pas plus que ça. Il peut commencer dans l'axe et puis finir ailier et vice versa. Et ouais, je pense que c'est pas ce qui va conditionner le reste du mercato parisien. S'ils ont des idées d'avoir pour le fameux Mikiazot ou d'autres joueurs, c'est vraiment dans cette optique de faire jouer les joueurs un peu actués sous les postes possibles, notamment offensivement.
Merci Jean-Jacques de nous avoir appelé au 32-7. Tu serais évidemment le bienvenu, hein, pour les autres rencontres du Paris Saint-Germain. Un petit mot avec toi, Maxime, justement sur Mardès Akliouche qui va jouer dans ce rôle pour l'instant en pointe de l'attaque, peut-être en faux neuf, le rôle normalement qui est occupé par Ousmane Dembélé. T'en penses quoi, toi?
Notre leader l'a très justement dit, c'est vrai que si Akliouche doit commencer le match en tant que faux numéro 9, c'est encore une fois des positions qui sont hybrides. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément le voir sur le côté, ça risque un petit peu de permuter avec Désiré Doué. Voilà, je trouve ça en tout cas très intelligent et intéressant de la part du Paris Saint-Germain de l'avoir recruté aussi rapidement, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'avec le départ de Gonzalo Ramos et surtout avec un Ousmane Dembélé mondialiste, on savait qu'il allait prendre du temps avant de revenir. Donc le fait d'avoir Akliouche, un joueur supplémentaire, c'est forcément de bon augure pour le Paris Saint-Germain. Tu vois, moi je pensais peut-être au petit Mayulu qui aurait peut-être potentiellement pu jouer numéro 9, en tout cas en faux numéro 9. On l'a vu sur les deux derniers matchs amicaux, notamment contre Mallorca et contre Manchester United. C'est vrai que je suis surpris de voir Akliouche titulaire. Voilà, bon, j'ai confiance évidemment en Luis Enrique qui connaît ses joueurs bien mieux que moi et surtout leur état de forme. Mais voilà, pour terminer mon analyse par rapport au petit Akliouche, j'imagine encore une fois que sa position sera hybride, donc il faut pas vraiment penser que ça sera forcément l'attaquant sur ce match-là. Il risque d'avoir énormément de permutations, et comme d'habitude, voilà, c'est une histoire de d'animation offensive avec des joueurs qui dézonent, et je serais pas surpris de voir Akliouche plusieurs fois sur le côté pendant ce match-là.
Et c'est la force aussi de Mardès Akliouche, on imagine que c'est pour ça que Luis Enrique a validé ce transfert, parce qu'il est capable de jouer quasiment à tous les postes offensifs, voire même au milieu de terrain. Damien nous a appelé également au 32-16. Damien, donc, toi tu voulais nous parler de Gvara. Salut à toi.
Oui, bonjour l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. Ouais, effectivement, moi Akliouche, oui, c'est bien qu'il soit titulaire, mais c'est son premier match, il n'a pas encore eu le temps de vraiment de se faire à l'équipe. Il n'y a pas l'équipe type autour de lui, donc parler de Akliouche maintenant, je trouve que c'est un peu prématuré. Par contre, il y a un joueur qui va falloir faire attention, c'est Gvara. Gvara, il n'a pas fait la Coupe du Monde, il a l'air en forme, il a fait des bons matchs de prépa. Bon, aujourd'hui, ça reste un trophée, la Super Coupe d'Europe, donc forcément, c'est lui qu'on attend ce soir. C'est lui qui doit porter l'équipe, c'est lui qui doit faire la différence devant, parce que Doué, certes, il est là, mais c'est pareil, il est revenu tardivement, donc pour lui, c'est encore de la prépa. Moi, j'attends un Kvara virevoltant pour mener l'attaque parisienne aujourd'hui.
Kvaratskhelia, donc très en forme, on l'a vu hein, sur les matchs amicaux. Damien le disait, notre auditeur, il n'a pas disputé la Coupe du Monde. Il a très très envie de marquer déjà les esprits, Kvaratskhelia, le Géorgien, Arthur.
Oui, alors d'ailleurs Marquinhos en a parlé hier en conférence de presse, le Brésilien qui disait qu'il avait été surpris à son retour à l'entraînement, il était tombé sur un Kvara très près. Voilà, bah il expliquait que ça avait été très compliqué de défendre sur lui là depuis la reprise. Donc c'est dire à quel point voilà, s'il est motivé, déterminé, là il vient de rentrer au vestiaire à l'instant avec le reste de ses coéquipiers, très concentré, on le sent depuis le début de cet échauffement. Donc oui, ça va être aussi un des révélateurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont charbonné tout au long de l'été et qui ont eu une courte préparation. Lui, il a eu le temps de se préparer tranquillement avec son préparateur physique. Et est-ce qu'il va être performant dès le départ? C'est quelque chose de très 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 possible ce soir ici à Saint-Denis.
Et puis on rappelle qu'il est cité dans la course au Ballon d'Or. Être décisif à chaque match important comme ça, évidemment ça compte. Il a été élu meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions, décisif à chaque rencontre éliminatoire. C'est lui qui avait obtenu le pénalty en finale. Donc s'il marque encore des points ce soir, personne ne s'est vraiment dégagé à la Coupe du Monde. Ça peut être aussi intéressant pour lui qui a été titulaire sur les deux amicaux et qui à la reprise le 27 juillet quand il y avait 9 joueurs, il y avait Kvaratskhelia. Donc lui, vous inquiétez pas, il aura des jambes ce soir.
Ouais, c'est vrai que je serais surpris de le voir. Bon, on est encore très tôt dans la saison, mais de le voir élu en tant que Ballon d'Or, même si c'est vrai qu'il a fait
bientôt. Hein,
oui, c'est finalement bientôt, mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde et notamment les joueurs espagnols, bon, on en reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité. Là où je suis d'accord avec vous, messieurs, c'est que Vara sur les grands rendez-vous, il est là. Sur les matchs de Ligue des Champions, il est là. On a tendance parfois justement à le critiquer, on a le sentiment qu'en Ligue 1 il a tendance à lever le pied, mais à chaque fois qu'il y a un gros match, eh ben, il répond présent et je ne serais pas surpris de le voir encore briller ce soir.
20h44 sur RMC, on continue à parler de ce PSG Aston Villa qui va débuter dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant. Justement, tiens, on va s'intéresser aussi aux objectifs du Paris Saint-Germain. Je vous propose d'écouter Luis Enrique, le coach espagnol qui parle de cette saison 2026-2027 et évidemment la quête de la troisième étoile. On écoute Luis Enrique.
Bien sûr, on a marqué des objectifs dans le début très ambitieux et on continue à faire comme ça. Je pense que dans ce moment c'est un scénario différent, particulier, parce que dans ce moment je pense que tout le monde pense qu'on peut gagner de nouveau. Ça c'est la théorie. Après, il faut montrer quel est notre niveau, il faut montrer dans le terrain que nous avons ce niveau, mais bien sûr, on cherche à tourner à gagner et si tu regardes dans l'histoire, c'est difficile d'avoir une équipe qui gagne tous les temps et on cherche à être là.
Ouais, Luis Enrique, évidemment, c'est ça aussi le style Luis Enrique, Arthur, c'est cette volonté de gagner tout le temps, n'importe quel match, et d'aller chercher la Ligue des Champions. Mais ça commence dès ce soir, Maxime Chanot le disait tout à l'heure, c'est un cycle qu'il ne faut pas briser, la victoire appelle la victoire.
Oui, et il se retient presque hein, parce que en parlant avec les joueurs et avec les salariés de ce club depuis déjà plusieurs jours, je peux vous le dire qu'il y a une expression, un terme que Maxime doit connaître très bien aux États-Unis, qui est utilisé un peu partout, c'est le three-peat, c'est-à-dire ce triplé, comme on l'appelle beaucoup aux États-Unis, comme on le surnomme. Les salariés l'utilisent déjà un petit peu, les joueurs en parlent déjà un petit peu, et ça a été aussi abordé par l'entraîneur espagnol au moment de la rentrée des joueurs. Voilà, on sait qu'il a l'habitude de les prendre toujours un peu un par un pour des entretiens individuels, pour faire un point de situation, et à chacun il a fixé clairement cet objectif, et Marquinhos le disait hier, voilà, on a réussi à gravir l'Everest, mais voilà, après l'Everest il faut continuer de monter, même si on est tout en haut, bah, il va falloir chercher de continuer à monter cette montagne et à atteindre cet objectif, ce fameux triplé. Voilà, c'est pas encore totalement assumé comme on l'entend dans la voix de Luis Enrique, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui est déjà abordé en coulisses.
Je t'ai vu faire la moue, Maxime, c'est peut-être pas totalement assumé, mais dans le sous-texte on comprend que c'est la Ligue des Champions qui compte et c'est la victoire finale en fin de saison.
Bien sûr, quand tu regardes leur effectif et encore plus avec les arrivées de Dak Liouch par exemple, c'est un effectif qui se doit, entre guillemets, en tout cas qui a le potentiel de pouvoir remporter une troisième Ligue des Champions. Là où j'ai envie de m'attarder, c'est surtout par rapport à la mentalité de Luis Enrique, parce qu'on l'a vu, hein, dans le passé, hein, il y a pas mal de joueurs, par exemple, c'est souvent le cas, qui gagnent une Coupe du Monde et qui ont du mal derrière, ouais, tu sais, à revenir un petit peu dans les clous, parce que c'est aussi naturel, c'est humain, quand tu gagnes, t'as tendance à lever le pied, et bien pas avec Luis Enrique. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup cet entraîneur, il arrive à laisser tous ses joueurs concernés, il les laisse même, il les met même sous pression, et ça c'est beau, j'aime beaucoup ce qu'il a instauré au Paris Saint-Germain, l'institution avant les individualités, et aujourd'hui ça gagne, et ça paye, et donc bravo à lui, on verra ce que ça va donner ce soir contre Aston Villa, mais je le répète encore une fois, honnêtement, Luis Enrique, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire avec le Paris Saint-Germain.
Damien, supporter du PSG qui nous a appelé au 32-16, justement une question sur Luis Enrique et sur cette volonté d'aller chercher le triplé, faire aussi bien que le Real Madrid de Zidane. On sait qu'on parle de cycle, pour toi ça va continuer, t'as encore confiance pour cette saison en Luis Enrique et au Paris Saint-Germain?
Bon, Damien qui est parti, Damien, mais voilà, c'est aussi la question qu'on pouvait se poser. Je vous propose donc, tu l'évoquais Arthur, d'écouter Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui s'est exprimé sur son entraîneur Luis Enrique, ce qu'il pouvait apporter à l'effectif parisien. On écoute Marquinhos.
Il est frais comme quoi, hein. Il sait passer le message aux joueurs. Il sait très bien passer le message qu'il veut. C'est un message très ambitieux, mais aussi un message très clair pour chaque joueur comprendre son moment dans la saison. Savoir le moment qui la préparation physique, mentale, il est vraiment très important. Lui, il est conscient que notre équipe ne va pas être tout au meilleur niveau en début de saison. Nous, on n'a pas le temps, c'est les cartes à jouer. On a un titre à jouer demain. On va jouer avec ses cartes. On va aller chercher ce titre parce qu'il est aussi important pour nous. Le titre, il reste dans le passé. Il fait l'histoire, c'est de continuer à gagner. On va continuer à aller chercher des titres parce que c'est ça qui a la mentalité de PSG de plus en plus.
Ouais, la mentalité du PSG, la mentalité du PSG de Luis Enrique. Damien, on l'a retrouvé, auditeur qui nous a appelé au 32-16, supporter parisien. Damien, on vient d'entendre Marquinhos, on a entendu Luis Enrique, cette volonté d'aller chercher cette troisième étoile, cette volonté de perpétuer la gagne pour le Paris Saint-Germain, de continuer ce cycle. Toi, t'es pas inquiet pour cette saison, tu penses que ça va perdurer la bonne forme du Paris Saint-Germain et aussi le niveau de jeu et l'état d'esprit qu'a insufflé Luis Enrique?
Alors en fait, je vous avoue que c'est exceptionnel ce qu'on a fait l'année dernière, d'autant que avec la Coupe du Monde des clubs, on était déjà cramés. J'avais un peu peur que cette année, avec la Coupe du Monde, ça fasse beaucoup. En plus, quand j'ai vu qu'on perdait Ramos, Lee, etc., peut-être Barcola aussi, ben on se dit déjà l'année dernière, on était juste en profondeur de banc. Ça va être compliqué. Et finalement, les matchs amicaux m'ont rassuré sur le niveau des jeunes qui arrivent, parce que on sait que notre équipe type aujourd'hui, le 11 type du PSG, il peut aller chercher une troisième Ligue des Champions sans aucun problème. Je pense que en Europe, on pratique un des plus beaux football et tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui peut pêcher parfois, ça va être la profondeur de banc et les remplaçants. On le voit très bien en finale, Luis Enrique l'année dernière, il joue qu'avec 13-14 joueurs, même Zaïre Emery qui était quasiment titulaire, il rentre pas. C'est là, dans les gros matchs, le groupe il est vachement resserré. Mais par contre, pour que ce groupe-là arrive en forme dans les matchs importants, il faut qu'il y ait une rotation tout au long de la saison et une rotation qui permette de garder un niveau assez intéressant.
Merci.
Et là, moi, ce que j'ai vu, bah, c'est hyper intéressant au niveau des jeunes.
Ouais, merci Damien de nous avoir appelé au 32-16 supporters parisiens. Dans 10 minutes, donc, cette Super Coupe d'Europe, le match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Je vous propose de parier sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et on parie avec le meilleur d'entre nous, Julien Boubdeuf, qui est là. Salut Julien.
Salut Anne, salut Max, salut à toutes et à tous.
Quels sont les codes de cette rencontre? Est-ce que les Parisiens sont favoris?
Ils sont favoris. 1,60 pour le Paris Saint-Germain, 4,20 le match nul, 5,10 pour Aston Villa. Il y a quelques jours, je vous aurais dit peut-être de se méfier un petit peu de cette équipe d'Aston Villa. Et plus le temps passe, plus je vois les absents côté Villans. Je suis un peu plus optimiste pour nos amis parisiens. C'est pour ça que je vois le Paris Saint-Germain l'emporter avec Farage Kelia décisif, lui qui a une préparation pas tronquée par rapport aux autres, c'est coté à 2. Le 1-0, il est à 7,75. Paris qui gagne la finale 1,35, Aston Villa à 3,50. Mais je vais rester sur le Paris Saint-Germain. Enfin, peut-être au moins 2 buts d'écart, côté à 2,30.
Qu'est-ce que tu joues, toi, Max, sur cette rencontre?
Bah écoute, pareil, je ne vois pas Aston Villa inquiéter les Parisiens. Donc, je vais miser sur une victoire de Paris avec 2 buts d'écart. Et pourquoi pas un but du nouveau joueur du PSG, Akliou, je tiens.
Eh ben le PSG par au moins 2 buts d'écart, c'est 2,30. Le 2-0 score exact, il est à 7,50. Si en plus de ça on rajoute à Cliouche, on monte à 22.
J'ai peur.
J'ai peur, quand tu paries sur le PSG, j'ai peur du coup qu'Aston Villa gagne, tu vois.
Ah bon? En règle générale, je me trompe rarement.
Ouais,
ça,
ah bon,
ouais, c'est vrai.
Eh ben, on vérifiera ça. Pas de souvenir. On rappelle d'ailleurs qu'il n'y aura pas de prolongation. C'est
tir au but directement.
Direct. Merci, Julien. Tous les paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans 7 minutes, donc, cette super coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa avec Valentin Jamard, Arthur Perrault, au commentaire Maxime Chano. Et évidemment, un détour par les championnats d'Europe d'athlétisme avec Aurélien Tirsin, Léna Marjac, Teddy Tango. On suit les épreuves de décathlon, notamment Aurélien. On en est où avec nos deux Français?
Donc pour l'instant c'est la quatrième épreuve, le saut en hauteur, et ça se passe pas mal pour Antoine Ferranti et Mackenson Gletti qui ont tous les deux passé la barre de 2m02 et c'est notamment très bien pour Mackenson Gletti qui est quatrième au général et qui n'est plus très loin de Sander Skotheim, le Norvégien, Teddy.
Oui, il est à 10 points en fait du troisième, ce qui est une très bonne chose, et il a réussi à rattraper un peu son retard dû au lancer du poids. Donc c'est une très bonne chose de la manière dont il a pu justement se ressaisir. Donc maintenant, il faut passer 2m05 pour aller encore grappiller des points et resserrer l'écart.
Et Antoine Ferranti qui passe à son premier essai, 2m05. Alors il est plus loin au classement général, mais c'est bon pour la confiance de voir un Français réussir un saut. Johan Mackenson Gletti qui cette saison n'avait pas fait mieux qu'1m94 lors de son season best. Donc là, 2m02, on est pour l'instant sur une bonne soirée pour le Français originaire de Nice.
Ouais, il se relance, Mackenson Gletti, dans ses épreuves de décathlon, le saut en hauteur. Un petit mot également avec toi, Aurélien, sur ce qui nous attend dans quelques minutes. Maintenant, demi-finale très importante en 110 mètres haies. Trois Français engagés, Aurélien.
Les deux premiers seront qualifiés en finale, la grande finale à 22h47 tout à l'heure. Juste Kouo Maté dans la première demi avec notamment l'Espagnol Asier Martinez. Dans la deuxième demi, on aura Thomas Wilkes, un jeune homme de Marti qui explose cette saison avec notamment le Suisse Jason Joseph et l'Espagnol Enrique Eliopis. Et puis une troisième demi-finale avec Théo Pedre, accompagné notamment du Polonais Jakub Zimanski et de l'Autrichien Enzo Diesel.
On va la suivre d'ailleurs, cette première demi-finale, avec juste Kouo Maté. Énorme chance de médaille, pourquoi pas de titre même, cette première demi-finale donc pour ces championnats d'Europe d'athlétisme pour le 110 mètres avec toi, Aurélien.
Et c'est le meilleur performeur européen de la saison, Teddy, tout simplement, en 13-20. Alors c'est très loin de son record personnel 12-99, mais il peut profiter d'un niveau européen en 2026, ouais, qui est un peu moyen.
Bah, disons que la situation est je serai nuancé en fait dans mon propos, parce que même s'il a la meilleure performance européenne de l'année, ils sont sept athlètes, je dirais même 8 athlètes justement en dessous des 13-30 justement. Donc ils se tiennent à 10 centièmes. Donc c'est très 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 serré, il va falloir en tout cas faire attention sur chaque aspect justement de sa course.
Juste Kouo Maté, couloir numéro 5 ici au Alexander Stadium de Birmingham, qui n'est pas beaucoup plus rempli que depuis le début de la semaine. Malheureusement, il faut terminer dans les deux premiers de cette demi-finale. Il y aura deux repêchés au temps, mais il faut vraiment viser une des deux premières places. À ses côtés, Asier Martinez, donc l'Espagnol, couloir numéro 4. Mathieu Sofia, le Néerlandais, lui aussi dans le top 10 européen cette saison, couloir numéro 6. Sans oublier le Chypriote Milan Trajkovic, qui a une carrière un peu particulière, mais qui a déjà fait des médailles en salle sur 60. Et le départ de cette première demi-finale, le départ moyen de Juste Kouo Maté, devancé pour l'instant par Mathieu Sofia, le Néerlandais. L'effort de Juste Kouo Maté qui va être excellent dans cette fin de course et assurer la première place de cette demi-finale en ralentissant, en contrôlant cette fin de course. Juste Kouo Maté, tranquille, Teddy, en finale du 110 mètres haies.
Il s'en sort bien, il s'en sort très 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 bien dans cette course, parce que le départ n'était pas non plus si exceptionnel que ça. Et au niveau du franchissement, n'est-ce pas, des barres, il flotte un peu, donc ça manque un peu de projection horizontale. Maintenant, ça ne l'a pas empêché de gagner, donc c'est une bonne chose, mais il faudra justement en finale régler ces petits détails justement pour s'assurer le meilleur classement possible.
Allez, 13-33, le chrono est assez moyen pour lui. Juste Kouo Maté qui se qualifie devant Milan Trajkovic en 13-40. Au moins un Français en finale du 110 mètres haies à 22h47.
Exactement, et on suivra aussi les autres demi-finales avec les deux autres Français. 20h56, une pause dans l'After Live, et on se retrouve très vite pour ne pas rater le début de la rencontre de cette super coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa avec Maxime Chano. À tout de suite sur RMC.